OK, donc on venait dans Hébreux 11. On avait commencé un petit peu Hébreux 11, on avait juste touché un peu. On avait dit que les chapitres 11, 12, 13, ben c'est la foi, l'espérance, l'amour. Dans Hébreux 11, c'est la foi. Hébreux 12, c'est l'espérance. Hébreux 13, c'est l'amour. Un peu comme 1 Corinthiens 13, 13 nous dit, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est qu'on va lire le chapitre 11 de Hébreux. À partir du verset 1, on dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est d'une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, ainsi afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas, excusez, avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble, puis on va se tourner vers lui pour un moment. Seigneur, notre Dieu, on te demande ta bénédiction sur cette étude ce soir ensemble. Il nous parle de la foi, notre Dieu. C'est un sujet qui est vraiment merveilleux parce que tous ces gens-là, notre Dieu, à cause de la foi, ont pu vivre une vie qui une signification éternelle. Parce que ce qu'ils attendaient, Seigneur, c'était cette cité céleste, cette cité qui vient d'en haut. Ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Seigneur, on te demande que nous aussi, on ait ce même désir de vivre par la foi. Et de ne pas vivre pour les choses qu'on voit, mais de vivre pour les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont réelles pour l'éternité, les choses qui comptent aussi pour l'éternité. Seigneur, on te remercie pour cet ensemble. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. On te demande ta bénédiction, puis on prie aussi pour la femme de Serge encore. Seigneur, merci d'avoir répondu. Merci de prendre soin d'elle, puis on te demande de continuer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on avait dit, un peu comme J.G. Bellette il dit, c'est en dedans du voile, hors du camp. Donc, hors du camp, on entre en dedans du voile. Puis c'est ça, la vie de la foi, c'est une vie qui est à l'intérieur du voile, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Les choses qu'on ne voit pas, mais par la foi, c'est comme si on les voyait. Elles sont réelles pour nous. Puis ça nous fait en sorte que notre vie va être vécu d'une façon différente de ceux qui n'ont pas la foi. Ça, on va voir ça en avançant. Mais dans ce chapitre-là, on voit le plan de Dieu de toute éternité. Dans l'histoire de l'humanité, on voit le plan de Dieu. Dieu nous révèle son plan à travers des joueurs qui, comme on avait dit la semaine passée, on avait parlé, c'est comme une pièce de musique avec un chef d'orchestre qui dirige toute la pièce, afin que chaque instrument joue sa partie, afin de faire un tout. Mais c'est ça qu'on voit dans la vie de ces gens-là qui ont vécu par la foi. On voit l'ensemble. On voit qu'est-ce que Dieu veut nous faire connaître de son plan. Parce que chacun, tout en étant différent, ayant vécu des circonstances différentes, ayant vécu d'une façon différente, mais par la même foi, eh bien, toutes ces choses-là différentes s'harmonisent. C'est ça, l'unité, selon Dieu. L'unité, ce n'est pas de la conformité. On penserait des fois que l'unité, c'est d'être tout conforme, mais ce n'est pas d'être conforme, mais c'est une diversité harmonisée pour faire une seule chose. Donc, c'est ça l'unité qu'on voit dans la parole de Dieu. Donc, on voit le plan de Dieu de toute éternité, on voit la création, la rédemption, la marche, puis la rémunération. Donc, ceux qui ont la foi, ils peuvent vivre une vie qui sera productive pour le but de Dieu dans son plan, dans la création. Fait que c'est pas eux qui ensemble se sont concoctés pour pouvoir harmoniser leur vie ensemble, mais c'est vraiment chacun en vivant selon ce que le Seigneur avait planifié pour leur vie. Eh bien, maintenant, toutes ces vies-là s'agencent ensemble pour nous faire connaître le plan de Dieu. Puis ça nous ramène à Éphésiens 2:10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis, si on peut agencer tous ces personnages-là dans Hébreux 11 qui ont vécu par la foi, c'est seulement une portion de tous ceux qui ont la foi. Mais dans le plan final de Dieu, quand on va être tous réunis, tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut, puis qui ont vécu par la foi, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que de tout, ça va faire en sorte que ça va être un agencement merveilleux de tout le plan de Dieu dans son plan de rédemption. On voit que le monde dans lequel on vit, il arrive à des mauvaises conclusions. Hein, parce qu'on pense que ce soit l'évolution. C'est pourquoi qu'ils arrivent avec des mauvaises conclusions. C'est parce que leur fondement n'est pas vrai. Ils ne sont pas fondés sur des choses vraies. Mais la vie de la foi est fondée sur la vérité. Est fondée sur la vérité. Puis Dieu est la vérité, le Seigneur Jésus. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le monde ne pourrait pas s'agencer de cette façon-là pour faire une œuvre comme Dieu fait avec ceux qui se confient en lui par la foi. Puis chacun de nous autres, là, ici, on a un rapport ou une évaluation de la vie de chacun, mais chacun de nous autres, on va avoir une évaluation. Chacun de ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis ici, le chapitre 11, c'est un peu comme le tribunal de Christ, là. Pour être comparé au tribunal de Christ. Au tribunal de Christ, chacun va recevoir la louange qui lui est due de la part de Dieu, puis tout va s'agencer parfaitement ensemble. On va le voir quand on va arriver. Puis il y a des gens qui parlent, c'est un peu comme un art de tisserie, là. Si on regarde en arrière, les fils sont tous entremêlés, mais un tissage, mais si on le revire à l'endroit, là, on voit, ça fait une belle œuvre, un beau dessin. Le monde travaille en vain pour répondre aux questions existentielles, d'où on vient, où on va, puis quel est le but de la vie. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons fondements sur lesquels s'appuyer. Puis la science ne peut pas répondre à ces choses-là. Puis c'est la parole de Dieu. Donc ici, ce qu'on voit dans le chapitre 11, comme on a dit, c'est l'évaluation de l'expérience de chacun. Puis Dieu ici retire de cette expérience-là de chacun, il retire quelque chose que lui veut et a voulu produire selon les points dominants. Comme on a dit, c'est comme le tribunal de Christ, hein. Ce qui est retenu, ce n'est pas les fautes, parce que ces gens-là qui nous sont donnés comme des témoins, il dit qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, mais ces gens-là, c'est sûr que ce qui nous est rapporté ici, c'est les bonnes choses de ces gens-là. On sait qu'il y a eu des fautes, ces gens-là ont fait des fautes. Ils ne sont peut-être pas toutes rapportées pour chacun, mais on sait que c'était des hommes, puis ils ont fait des fautes. Mais ce qui est retenu ici, c'est ce que Dieu voulait faire ressortir de leur vie. Puis c'est un peu comme ça que ça va être au tribunal de Christ. On sait que les choses qui auront été faites, si on a construit avec du bois, du foin, du chaume, ça va être consumé. Puis on va être content que ça soit consumé. On va être content que ça soit enlevé, que ça soit. Mais ce qui va être le bois, l'or, l'argent, la pierre précieuse, bien ça va rester pour glorifier le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais Dieu va trouver toujours une façon de nous donner. De nous donner la louange, parce que le Seigneur, il aime donner des récompenses. Puis quand on pense même au brigand sur la croix, là, bon, on se dit, lui, il a été sauvé à la dernière heure, puis il est mort, ce qui n'a rien fait pour le Seigneur. Mais le Seigneur a su, même si cet homme-là était sauvé à la dernière heure, il a quand même fait un travail pour le Seigneur. Combien de gens dans l'éternité vont avoir accepté le Seigneur sur leur lit de mort à cause de ce brigand-là qui, lui, a été sauvé à la dernière heure. Fait que le Seigneur, on va être émerveillé de voir comment le Seigneur peut faire ressortir quelque chose pour chacun de nous à la gloire de son nom, quelque chose qui va le glorifier. Ça, c'est merveilleux. Donc, mais une chose qu'on voit dans ces gens-là, leur expérience n'était pas une copie de l'autre. C'est de la diversité. Chacun a eu sa vie dans ses circonstances, comme chacun de nous, on a notre vie dans nos circonstances. On n'a pas toutes les mêmes circonstances. On ne passe pas à travers les mêmes choses, mais c'est la même foi. qui nous fait avancer avec les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ça, dans ce qu'on voit ici, chacun avait un rôle distinct. C'est la diversité dans l'harmonie. Ça, c'est la façon que Dieu agit, comme on le voit dans l'assemblée. C'est encore la même chose. Dans l'assemblée, on n'est pas tous pareils. On est des membres différents, mais on fait un corps ensemble dans l'unité du Saint-Esprit. Puis on peut faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Étant dans des membres différents, on peut accomplir une œuvre ensemble avec chacun pour sa part que le Seigneur lui a donnée. Mais chacune de ces expériences-là qu'eux ont vécues a pu exprimer leur foi. C'est pour ça qu'il y a des mots ici qui reviennent constamment, c'est par la foi. On va le voir en avançant, c'est par la foi. Mais chacune de ces expériences ont exprimé leur foi. Puis chacune a reçu une récompense selon leur attente et n'ont pas été déçus. Dans Romains, au chapitre 10, au verset 11, il dit: Quiconque croit en lui ne sera point confus. Puis dans 1 Pierre 2, 6 aussi, il nous dit ça, que celui qui met sa foi en lui ne sera pas confus, c'est-à-dire qu'il ne sera pas déçu, il sera pas, ce ne sera pas en vain qu'il a mis sa foi dans le Seigneur, puis que le Seigneur a pu accomplir une grande chose. Mais comme j'ai dit, l'expression ici, c'est par la foi, là, elle nous revient 20 fois dans le chapitre. C'est l'introduction de chacun, c'est par la foi. Donc, on voit que c'est le thème de le chapitre 11, c'est comme une forteresse de la foi, là. On est environné d'une si grande nuée de témoins qui ont tous vécu par la foi. Puis cette expression-là nous revient 20 fois dans le chapitre pour introduire chacun des participants dans cette œuvre-là. Donc, chacun des joueurs. Quelle belle harmonie quand on lit ce chapitre, mais il fut accompli un joueur à la fois. C'est arrivé un joueur à la fois. Puis là, maintenant, nous, on peut l'avoir tout ensemble dans ce chapitre-là. Tous ces gens-là qui ont vécu à des époques différentes, maintenant sont rassemblés pour former un tout. Ça, c'est la foi qui permet ça. Le mot foi se retrouve 24 fois dans ce chapitre, puis 10 fois dans le reste de l'épître. Donc, dans un seul chapitre, il y a 24 fois le mot foi, puis dans le reste de l'épître, il vient 10 fois. Il y a 12 personnages de l'Ancien Testament qui sont très introduits à cause de ce qu'ils ont accompli à partir du verset 4, chapitre 11, verset 4, jusqu'au verset 31. Puis ensuite, il nous parle de d'autres. Les autres ne sont pas nommés, mais il y en a d'autres aussi. Puis ça nous encourage parce que nous autres aussi, on fait partie de cette nuée-là de témoins. On est des témoins. Quand on vit par la foi, on est des témoins on sont des exemples pour les autres. Moi, je sais bien que quand je vois des personnes plus âgées qui arrivent à la fin de leur vie puis qui ont vécu par la foi, ben moi, c'est un encouragement pour moi. Je me dis toujours, eux, ils ont passé des situations, pas les mêmes que moi, mais ils ont passé des situations semblables, puis ils ont vécu, ils ont surmonté tous les obstacles, puis ils arrivent à la fin, puis ils ont été fidèles jusqu'au bout. Puis moi, ça m'encourage beaucoup à rester fidèle. Puis c'est pour ça qu'on parle d'une si grande nuée de témoins, comme au verset 1, là. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans le chapitre 12, au verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, c'est des témoins, c'est des gens qui nous montrent que la foi, ça fonctionne. La foi, c'est réel. La foi, ça transforme notre vie. La foi, ça nous fait vivre une vie toute différente. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais avant le déluge, on a trois personnages: Abel, Enoch et Noé. Après ça, on a les patriarches. On a Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Puis de l'Égypte à Canaan, on a Amram et Jochebed, les parents de Moïse. On a Moïse, on a Israël aussi, qui est passé à travers la mer Rouge, qui est allé sous Moïse, mais qui a aussi entré à Jéricho sous Josué. Puis on a aussi Rahab, qui nous est mentionné. Mais dans le pays de Canaan, après qu'ils étaient dans le pays de Canaan, on a Gédéon, les juges, Barak, Samson, Jephté, parce qu'on a le roi David, Samuel, les prophètes et les autres. Ceux qui ont été victorieux par la foi, les autres qui n'ont pas cherché une victoire sur la terre, on a ces gens-là. Puis, mais c'est la même foi qui est capable de nous délivrer hors de l'épreuve, mais la même foi peut nous délivrer à travers l'épreuve, parce qu'il nous parle de d'autres aussi. D'autres, il y en a qui ont eu la victoire, puis il y en a qui n'ont pas eu la victoire. Ils ont été, comme il y en a qui ont été délivrés hors de l'épreuve, il y en a qui ont été délivrés dans l'épreuve. Hein, on le voit quand les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, ils n'ont pas été délivrés de la fournaise, ils ont été délivrés à travers la fournaise. Ça fait que c'est la même foi qui rend ces choses-là possibles. Puis le Seigneur a choisi. Pour ça que ça ne veut pas dire qu'on va toujours être délivré hors de nos épreuves, mais ça veut dire on va toujours être délivré même si on doit passer dans l'épreuve. C'est ça qui est important ici, là. Puis ça, c'est les versets 39 à 40. Il peut être délivré à travers l'épreuve. Dans le chapitre 10, verset 38, on avait lu le mon juste vivra par la foi. On avait parlé de ça aussi quand on est arrivé là. C'est une citation de Habacuc, chapitre 2, verset 4. Puis c'était en rapport avec la prophétie qui avait été, il avait dit d'écrire la prophétie, puis la graver sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, c'est la même chose pour nous autres. On a une promesse, Dieu nous a fait une promesse. Puis, pour nous, ça semble peut-être tarder. Même les moqueurs disent que le Seigneur tarde où est la promesse de sa venue. Puis, la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est une promesse que Dieu a faite. Puis la foi s'empare de cette promesse pour vraiment être capable de vivre en vue de cette promesse. Puis en vivant en vue de cette promesse-là, ben, ça fait en sorte qu'on vit une vie différente que si on n'avait pas la foi. Mais donc, aussi, on en revient à ceux qui sont avant le déluge, au verset 3. Au verset 3, il avait dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ici, on pourrait dire que c'est Adam, parce que c'est Adam qui a eu le récit de la création. C'est lui qui a, parce que Adam n'était pas encore créé quand il était à la fin de la création, mais il a reçu la révélation de cette création-là. Donc, c'est par la foi qu'on croit la révélation. Moïse qui a écrit la Genèse, mais Moïse avait dû l'entendre d'Adam, parce que c'est Adam qui communiait avec Dieu. C'est Adam qui, au début, qui Dieu a pu révéler les choses qui s'étaient passées dans la création, puis nous ont été rapportées. Donc, il n'a pas vu parce qu'il était créé à la fin, mais c'est lui, Adam avait la foi aussi. Même si c'est lui qui a introduit le péché dans le monde et par le péché la mort, mais Adam a cru dans le jugement qui a été porté au serpent, c'est que la postérité de la femme viendrait écraser la tête du serpent, mais il a vu là-dedans la victoire, c'est le prototype de l'Évangile, eh bien lui, il l'a cru, puis il l'a exprimé. Puis moi, j'aime vraiment, comme Genèse 3:20, quand Adam, après avoir entendu la prophétie de la postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent, mais Adam a donné le nom à sa femme d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Donc, la mort est venue par Adam, la vie est venue par Ève. Dieu de Dieu, verset 4, on arrive avec Abel. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, Abel a mis sa foi dans le plan de rédemption de Dieu. Lui, au lieu d'offrir le fruit de son travail, il a offert un premier-né de son troupeau. Puis, on voit le sacrifice. Cela démontre que la rédemption de Dieu est disponible pour tous. Abel nous montre que lui, il s'est saisi par la foi de la rédemption de Dieu, puis et qu'il est disponible par tous, pour tous. Caïn, lui, il n'a pas mis sa foi en Dieu, parce qu'il a choisi, puis même le Seigneur lui a parlé, il a dit d'offrir comme il faut, puis, mais Caïn était rebelle, il n'a pas voulu, s'est confié dans ses œuvres à lui. Puis, il y en a qui nous disent, bon, ben oui, mais ceux qui sont dans le jeûne, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais Dieu, vraiment, ceux qui veulent, Dieu donne de la lumière. Puis quand on poursuit la lumière que Dieu nous donne, il nous en donne plus. Parce qu'on sait que dans Apocalypse 7, au verset 9 à 10, là, il dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, on voit là-dedans qu'il y a des gens de toutes les nations, de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple qui sont là, dans la présence de Dieu. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils proclament le salut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reçu par la foi. Donc, il y a des gens partout sur la terre qui ont reçu le salut de Dieu. Puis si quelqu'un dit, ben, moi, je ne l'avais pas entendu, ben, il va dire, regarde, il y a quelqu'un proche de lui qui va pouvoir témoigner, regarde, moi, je l'ai entendu. Parce que Dieu a donné la lumière, puis ils ont poursuivi la lumière. Dieu s'est fait connaître à eux. Au verset 4, il dit, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel, même s'il est mort, il nous parle encore parce que c'est comme ça. Lui, il a reçu l'Évangile selon le plan de rédemption de Dieu. Il a mis sa foi en offrant, en réalisant qu'il, lui, ne pouvait pas offrir ses œuvres, mais il pouvait offrir un substitut. Puis qu'il nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle encore, quoique mort. On voit dans Adam, lui, il adore, ça correspond à Apocalypse au chapitre 4. Hein. On voit dans Apocalypse au chapitre 4 que Dieu est adoré à cause de sa création. Puis Abel, lui, il se rapporte au chapitre 5 de l'Apocalypse. Parce qu'on voit dans le chapitre 5 de l'Apocalypse que Dieu est adoré à cause de son plan de rédemption. Donc, premièrement, il est adoré comme créateur. Ensuite de ça, il est adoré comme rédempteur. Puis c'est ça que Adam exprime et aussi avec Abel. Abel aussi, c'est ça que lui exprime parce qu'il a mis sa confiance dans le plan rédempteur de Dieu. Les versets 5 et 6 ici nous disent, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Énoch ici, qui nous montre que s'il a plu à Dieu, c'est parce qu'il avait la foi, parce que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Donc, Énoch ayant mis sa foi en Dieu, pour diriger sa vie, ben, il a marché avec Dieu. Il a marché près de Dieu. Il était si près de Dieu, c'était comme quelqu'un disait à un moment donné, il était tellement près de Dieu que Dieu a dit, ben, t'as pas besoin de retourner à la maison, rentre avec moi. Rentre chez nous avec moi. Puis il s'est en allé dans la présence de Dieu. Puis il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. Enoch n'a pas vu la mort. Étant près de Dieu, il a plu à Dieu, il a marché avec Dieu. Puis, au lieu de revenir sur la terre, il est resté à la maison avec Dieu, il est resté avec Dieu. Et lui, Enoch, il est un type de l'Église. L'Église qui va être enlevée un jour. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Donc, on n'est pas. Il y en a qui ne verront pas la mort. Puis, il y en a aussi, il y en a d'autres dans la parole de Dieu qu'on voit qu'Élie n'a pas vu la mort non plus, il était enlevé au ciel vivant. Puis, on voit que des gens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église, ben, le Seigneur est capable de faire, il est capable. Mais on sait une chose, que l'enlèvement de l'Église, on va tous être transformés quand même. Les morts vont ressusciter incorruptibles, puis nous aussi, on va être transformés. On va revêtir l'incorruptibilité, on va revêtir l'immortalité. Puis, on voit que Enoch a été enlevé avant que le déluge vienne sur la terre. Le déluge, ça nous parle de la tribulation. Le déluge est venu sur la terre entière la tribulation que Dieu va apporter va être sur tous les habitants de la terre. Donc, c'est mondial. Le déluge a été mondial. Le jugement dans la tribulation va être mondial aussi, mais Enoch a été enlevé avant que le déluge vienne sur la terre. Puis on croit, selon la parole de Dieu, que l'Église va être enlevée avant la tribulation qui vient sur les habitants de la terre. L'Église ne sont pas des habitants de la terre. On n'est pas nous qui sommes sauvés, on n'est pas des habitants de la terre. On est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mais les habitants de la terre, c'est ceux qui veulent demeurer ici, ils prennent la terre comme leur bien, mais c'est vraiment, ça appartient à Dieu. Ça, c'est comme l'église de Philadelphie, hein, qu'on voit dans l'Apocalypse, l'avant-dernière église, l'église du réveil, l'église qui a pris pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a gardé le nom du Seigneur pour s'attacher à son nom. C'est ça qui était important pour une église qui avait peu de force, peu de puissance, mais que le nom du Seigneur était important pour elle. Il dit au chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Puis ici, qu'est-ce qu'il dit? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Le mot veut dire que je te garderai hors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Puis ça, c'est un thème qu'on voit dans l'Apocalypse. Quand il parle des habitants de la terre, là, il parle de ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont sur la terre, mais qui ne sont pas sauvés. Mais nous, on est des gens, des citoyens des cieux. On est gens de la maison de Dieu. Donc, il va les garder, il fait une promesse à cette église-là. Parce qu'elle a gardé son nom, elle avait peu de puissance, mais parce qu'elle a gardé son nom, qu'il va la garder aussi à l'heure de la tentation. On sait que l'heure de la tentation ou les jugements qui vont venir sur la terre, c'est pour le péché, à cause du péché. Mais nous, le Seigneur Jésus a pris notre péché en son corps sur la croix, puis lui a subi le jugement à notre place. Lui a pris la condamnation. Puis c'est pour ça que maintenant, il nous dit à ceux qui sont sauvés, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de passer à travers la tribulation. Le Seigneur a payé pour nos péchés, puis on n'a pas besoin d'être jugé. On n'a plus de jugement pour nous. Le jugement que nous, on va recevoir, c'est nos œuvres. Ce n'est pas nous autres qui va être jugés, mais c'est nos œuvres, comme on a vu au tribunal de Christ. L'enlèvement de l'Église, on s'en va dans la présence du Seigneur sur la nuée. Donc là, on va passer au tribunal de Christ pour que l'œuvre de chacun soit évaluée pendant que les jugements s'abattent sur la terre. Nos œuvres vont être jugées. Le Seigneur va nous donner à chacun la louange qui nous est due, comme il fait ici dans Hébreux 11. Puis, il va nous récompenser. Ensuite, on a les noces de l'agneau. On va être unis à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Puis on revient avec lui quand il va revenir visiblement sur la terre avec tous ses saints. Donc s'il revient avec tous ses saints, il faut d'abord qu'on ait été réunis à lui et ensuite on va revenir avec lui pour quand il va venir pour combattre. Donc c'est ça qu'il va faire. Noé, après ça, au verset 7, il nous parle de Noé. Il nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si nous autres, l'Église, on est enlevés, on ne verrait pas la tribulation sur la terre, mais Noé, ici, lui, est un type du peuple juif. Est un type du peuple juif, lui passe à travers le jugement, mais il est préservé à travers le jugement. Puis on sait qu'à la fin de la tribulation, il va avoir le jugement des nations vivantes et Israël qui va prendre, ils vont rentrer dans leur royaume et les nations vivantes, c'est ceux qui ont mis leur foi durant la tribulation, qui ont mis leur foi dans le Dieu des Juifs, le message que les Juifs ont leur apporté. Eh bien, eux, ils vont rentrer aussi dans le royaume de Milan avec le Seigneur. Puis Noé est un type de cela. Noé, il était un témoin pour ceux qui ont passé à travers le déluge, mais ils n'ont pas écouté le témoignage de Noé. Mais ceux qui ont entré avec Noé dans l'arche, les animaux, et aussi les fils de Noé avec leurs femmes, ils ont été épargnés. Puis le Seigneur dit à propos du peuple juif ici, il dit dans Apocalypse 7, les versets 3 à 4, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, c'est ceux qui sont les instruments de jugement de Dieu. Il dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, les autres sont épargnés durant la tribulation. Puis, on sait que durant la tribulation, il va y avoir les deux tiers, selon Ézéchiel, il va y avoir les deux tiers des Juifs qui vont périr. Ceux qui sont des traîtres de l'Alliance, ceux qui vont recevoir le message de la bête, ceux qui vont se tourner vers ce chef politique-là, la bête politique, ils vont être détruits. Ils vont avoir le même sort. Parce que tous ceux qui vont prendre la marque de la bête dans la tribulation, ils vont avoir le même sort que la bête, qui vont finir dans l'étang de feu pour l'éternité. Mais il y a des gens comme un tiers du peuple juif qui vont survivre la tribulation. Eux, ils vont rentrer aussi. Comme Noé a survécu le déluge, puis il est ressorti sur une terre nouvelle. Puis Dieu a recommencé avec Moïse. Je ne sais pas si j'ai dit Moïse, mais c'est Noé, excusez-moi. C'est Noé qui, lui, a recommencé sur cette nouvelle terre-là parce que Dieu avait détruit tous les scandales, il avait détruit tous les pécheurs de la terre, puis il a fait entrer Noé sur cette terre-là nouvelle. Donc, ça, c'est le... Donc, dans ces premiers-là qu'on voit avant le déluge, on voit qu'il y a celui qui a mis sa foi en Dieu. Il y a celui qui a marché avec Dieu, puis il y a celui qui a passé à travers le jugement, puis qui en est ressorti. Donc, on a ici le plan prophétique de Dieu, par ceux qui ont vécu par la foi. Puis ces gens-là, ils réalisaient pas nécessairement à ce moment-là qu'ils étaient une partie du casse-tête, mais la foi, le fait qu'ils ont vécu par la foi, qu'ils ont été obéissants au Seigneur, qu'ils ont suivi le plan qu'ils avaient fait, comme on dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lui, l'auteur de ces œuvres-là, eh bien, il sait comment il veut qu'on vive. Puis ici, eux, ils nous montrent le plan de Dieu avant le déluge jusqu'à ce qu'il nous montre le plan prophétique de Dieu par chacune de leurs vies qui a été vécue par la foi. Dieu les a agencés pour que nous donner ce plan-là. Ensuite de ça, on arrive aux patriarches. On arrive aux patriarches, on a Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Puis ces personnages-là, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, c'est tous les descendants. Il y a Abraham, son fils Isaac, son fils Jacob, son fils Joseph. Mais ça, c'est toujours considéré dans la parole de Dieu comme les patriarches. C'est comme les pères de la nation juive. Puis les autres aussi, c'était vraiment, ils étaient une image aussi de ce que du plan de Dieu aussi, là. Donc Abraham et Sarah, ben, on voit que Abraham et Sarah, ben, il est question ici de la postérité, parce que Abraham n'ayant pas d'enfant, c'était quoi l'histoire d'Abraham? C'est que Dieu a donné à Abraham une promesse qui lui donnerait une postérité qui serait une postérité qui peuple qui serait grande comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Puis c'est ça le peuple d'Israël, il vient d'Abraham et de Sarah, puis c'est la postérité, mais pas juste, on sait que c'est le sable qui va être sur le bord de la mer, qui on peut pas compter, on parle du peuple terrestre. Mais quand il parle des étoiles dans le ciel, ben là, il nous parle du peuple céleste. Puis on voit dans Galates que nous, on est la postérité d'Abraham. Puis la postérité d'Abraham, ben, c'est le Christ, puis ceux qui sont à Christ. Donc, c'est toute la population ici qui va hériter de la cité céleste dont il nous est fait question ici, là. Il attendait une cité. Dans le verset 14, il nous dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils auraient pu retourner dans la patrie d'où ils étaient sortis. Mais maintenant, puis ça c'est par la foi, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Puis, donc, c'est quoi cette cité-là? On sait que c'est une cité céleste. C'est la Jérusalem céleste. C'est le trône de Dieu. Puis, c'est ça qui est l'espérance de ces gens-là. C'était leur espérance. C'est notre espérance aussi à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Puis, Abraham et Sarah, eh bien, ils étaient les parents de cette postérité-là. Abraham, en type, était le père. Puis aussi, il est un prototype de la foi parce qu'Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, cette postérité-là, elle était basée sur la foi dans la promesse de Dieu. Abraham a cru, puis Dieu lui a imputé à justice. Puis c'est ainsi que nous aussi, par la foi, la justice lui a été imputée, c'est-à-dire qu'elle a été mise à notre compte. Pas parce qu'on est juste, mais parce qu'on croit. Dieu nous a mis sa justice sur nous. C'est ça qui est la postérité ici. C'est lui qui avait reçu les promesses. Puis Abraham est le père de tous les croyants. Il est celui qui est le prototype de la foi. Parce que même Abraham, pas Abraham, mais même Adam, puis les autres qui ont eu la foi, mais Abraham étant le père de tous les croyants, ben c'est lui qui est le prototype de la foi ici. Donc, lui, il n'y avait pas d'intérêt pour une citoyenneté terrestre parce il nous dit qu'il vivait comme étranger et voyageur sur la terre. Il vivait dans des tentes. Il n'a pas construit de maison. Il vivait dans des tentes pour démontrer qu'il était un voyageur sur la terre. Il était ici juste de passage. Vous savez, quand on est dans un endroit qu'on ne va pas rester, on ne s'installe pas. Comme quelqu'un le disait, on ne plante pas les pieux de la tente trop creux. Parce qu'il va falloir les enlever pour partir. Puis c'est comme ça, nous autres, qu'on est ici sur la terre, on ne veut pas mettre nos pieux trop creux parce qu'à un moment donné, on va lever les pieux pour on va s'en aller avec la présence du Seigneur. Puis pourquoi vivre pour des choses ici terrestres quand on sait qu'il va falloir tout abandonner pour s'en aller avec le Seigneur parce qu'on a des biens meilleurs? Mais c'est pour ça que les autres, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Puis, la même chose pour Isaac aussi, puis Jacob. Jacob aussi était un pèlerin sur la terre, puis Joseph aussi. Joseph, il a fini en Égypte, mais quand il a fini en Égypte, il a fait une promesse de prendre, quand il allait revenir, parce qu'il savait qu'il allait revenir dans le pays, puis il leur a fait faire la promesse de transporter ses os pour les emmener dans le pays. Aussi, quand son père est mort, bien, il est allé l'enterrer dans le pays. Puis les os de Joseph ont été transportés, ont sorti d'Égypte, parce que Joseph ne trouvait pas sa demeure en Égypte. Donc, on voit toutes ces choses-là. Isaac, Jacob, Joseph, ils ont toujours béni leurs descendants parce que c'était la promesse de Dieu. Eux qui mouraient, ils mouraient dans l'espérance, la promesse continuait dans leur postérité. Puis Joseph, il a pu bénir les fils Jacob a pu bénir les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Et après ça, ben, on passe de l'Égypte à Canaan. Puis de l'Égypte à Canaan, les versets 23 à 31, ici, on a les parents de Moïse. On voit dans le verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Donc ici, c'est Amram et Jochebed qui ont eu les parents de Moïse. Puis l'ordre du roi était qu'il fallait que tout enfant mâle soit noyé. Mais les autres, ils l'ont mis sur le Nil, mais dans une arche. Puis ils ont mis leur foi pour que Dieu le protège. Puis Dieu l'a protégé, puis il en a fait un délivreur. C'est lui il a délivré Israël. Donc, c'est la foi qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas craint l'ordre du roi, puis qu'ils ont voulu garder Moïse Puis Moïse aussi, lui, il a eu son enfance avec ses parents, mais par la foi, quand il a grandi en Égypte, eh bien, il n'a pas voulu avoir la gloire de l'Égypte parce que lui aussi est un étranger puis un voyageur. Lui, il regardait à la rémunération. Puis, regardant la rémunération, bien, il a refusé les choses terrestres pour vivre pour les choses spirituelles. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis, c'est lui aussi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Puis, Moïse a obtenu aussi un témoignage favorable. Puis, on voit aussi que il a immolé la Pâque, pour que il a fait l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Puis c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que ces choses-là sont arrivées. Puis après ça, on arrive à Josué, parce que là, Moïse n'étant plus, c'est Josué qui a introduit le peuple dans le pays. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Parce que Jéricho se tenait là comme une forteresse à l'entrée du pays. Après qu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à une forteresse, une grande forteresse. Mais la foi peut déménager des montagnes. Puis c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Dans leur plan de bataille, c'est juste par la foi. Le Seigneur leur a dit de faire le tour de la ville pendant 7 jours, puis la dernière fois de sonner des trompettes. Je me demande qu'est-ce que les gens de Jéricho pensaient quand ils faisaient le tour de la ville. Ils regardaient faire le tour de la ville un peu en disant, ben, essayez de rentrer, voir. Mais le Seigneur, c'est juste l'obéissance. C'est par la foi qu'ils faisaient. Parce que si les murs n'étaient pas tombés, ils auraient eu l'air fou. Ils n'auraient pas eu de victoire. Mais en faisant ce que le Seigneur avait demandé, ben, ils ont démontré que la foi, ça fonctionnait. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho, puis ils ont pris. Ensuite de ça, ben, il nous parle de Rahab, une qui nous montre que quand le jugement vient, ceux qui se confient dans le Seigneur, ceux qui résistent vont périr. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur, elle, par la foi, elle a exprimé sa foi avec le fil de cramoisi, puis elle avait fait une promesse qu'ils allaient garder elle et sa maison. Puis elle a reçu cette promesse-là. Elle a été préservée. Puis non seulement elle a été préservée du jugement, mais elle a reçu une grande bénédiction parce qu'elle est entrée dans la postérité, dans la lignée du Messie. Puis ça nous parle de nous autres aussi. On était des gentils, des gens du dehors, mais parce qu'on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus, on est devenus des enfants de Dieu. Et Jean nous dit ça, hein. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Mais puis il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que quand nous le verrons, nous serons tels que lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ici, on a ces gens-là de l'Égypte à Canaan, les parents de Moïse, Josué et Rahab. Puis en Canaan, après ça, après qu'ils étaient rentrés dans le pays, les versets 32 à 40, mais là, on a les juges, on a ceux qui faisaient partie du peuple après qu'ils sont entrés dans la terre promise. On a Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, qui étaient des juges, mais on voit quand même, c'est encourageant dans un sens, parce que ces gens-là, ils n'ont pas tous fait des bonnes choses. Ils ont tous eu des manquements dans un sens. Mais ici, leur manquement n'est pas mentionné. Mais qu'est-ce qui est mentionné? C'est leur foi. C'est leur foi qui ressort dans les actes. Puis Dieu, il peut maintenant, il les met comme des héros de la foi. Il les met comme dans cette nuée-là de témoins qui nous encourage à persévérer. Vous savez, des fois, on se dit, oh, je manque tellement. Là. Des fois, je me dis, je ne serais même pas digne d'être mentionné là, dans cette liste-là. Ben, le Seigneur, il trouve une façon, lui, de nous mentionner. Parce qu'est-ce qui va avoir été fait, pas pour la gloire de Dieu, va être consumé. On va être bien content de le voir s'envoler en fumée. Mais il va pouvoir garder quelque chose de ce que notre foi a fait en nous pour exprimer notre persévérance ou la foi dans la promesse de Dieu. Ensuite de ça, bien, il y a David qui était le roi, qui représente les rois d'Israël. Ensuite, Samuel qui représente les prophètes. Puis, dans la liste, bien, il nous dit aussi, au verset 36, il nous dit, d'autres subirent les moqueries. Ben là, on peut mettre notre nom là. Puis, nous autres aussi, on a à souffrir pour le Seigneur. Il y en a qui, il dit dans le verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, il y en a qui ont, il y en a d'autres qui nous dit ici, qui par la foi, Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent au verset 33, des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres, puis là, après ça, il parle de d'autres. C'est un petit peu, quasiment, on dirait que c'est comme l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Puis dans le Nouveau Testament, on voit les persécutions de son Église, parce que le peuple d'Israël était dans son pays, même s'il a été emmené en captif, ils ont revenu de la captivité. Mais nous, de l'Église, on est un peuple céleste. On n'a pas de patrie ici sur la terre. Puis c'est pour ça qu'on est persécuté par le monde. Pourquoi qu'il dit, tous ceux-là, à la fois desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est ça, la foi va nous avoir amené à attendre cette perfection-là que le Seigneur va nous donner dans son temps. Fait que, on a ici une si grande nuée de témoins qui nous encourage, nous, à persévérer dans la foi, puis à ne pas vivre pour les choses qu'on voit, mais à vivre pour les choses qu'on ne voit pas, les choses invisibles, mais qui nous sont rendues visibles à nous par la foi. Puis ça en vaut la peine. C'est que c'est encourageant pour nous autres. On est entouré d'une si grande nuée de témoins. Là, c'est notre tour à nous autres de vivre par la foi. C'est là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, nous autres, notre partie à jouer, là, mais jouons-la jusqu'au bout. Par la foi, gardons les yeux, ayant des regards sur Jésus, comme il dit au chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fait que c'est notre portion aujourd'hui de vivre par la foi pour que le Seigneur puisse démontrer sa puissance à travers nous. Puis un jour, quand toute l'histoire va être complète, ce ne sera pas juste le chapitre 11 d'Hébreux, là, mais il va y avoir tous les noms des rachetés du Seigneur avec ce qui les a caractérisés. Ça, c'est vous et moi. C'est que merci Seigneur pour ces grandes choses. Fait que je m'arrête là. Je vous donne la possibilité de poser vos questions ou de donner des commentaires. Attendez un petit peu, je vous donne de pouvoir prendre votre micro. OK. Si jamais vous avez un problème, des fois, si vous attendez un peu, des fois, ça devient impossible, faites-moi signe de la main, puis je vais vous donner la possibilité. Fait que je m'arrête là pour ce soir.
Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux vous transmettre un message? C'est un message de notre sœur Ruth Cusson.
OK.
Vous savez que Ruth a le cancer du pancréas.
Oui.
Et puis, elle nous envoie un message à tous. Ben, c'est écrit à moi-même et à Marie. Le bonjour, Donald et Marie.
OK.
J'espère que vous avez bien profité de votre temps à Rivière-du-Loup. Je voulais remercier les frères et sœurs qui assistent à la réunion Zoom d'avoir prié que Dieu soit glorifié lors de ma rencontre de mardi dernier avec un oncologue, parce qu'elle avait annoncé qu'elle avait
Oui.
une rencontre mardi dernier. Comme résultat de cette rencontre, je n'ai eu aucun traitement le lendemain et j'aurai une rencontre avec un oncologue différent et un autre prélèvement demain à 9h10. Donc, ça veut dire demain, oui, c'est ça. Demain mardi pour le prélèvement et à 10h pour la rencontre. J'ai bien apprécié la pause de la chimio. Peut-être que les oncologues ont eu l'occasion de se parler entre eux ou que d'autres résultats sont arrivés. On m'a dit que les résultats tant attendus du TACO étaient peu clairs. Que Dieu vous bénisse tous cet été. On aura bien l'occasion de se rencontrer à un moment donné selon sa volonté. Et entre parenthèses, elle dit, j'ai un rendez-vous cet après-midi, alors j'écris maintenant de peur de manquer de temps plus tard. Donc, on s'aperçoit que Jean et Ruth étaient présents finalement ce soir. Donc, pendant l'été, pensons à notre sœur Ruth et à Jean.
Parce que
Donc, c'est le message.
c'est la dernière
Pardon?
réunion pour la saison. On va arrêter
Oui,
pour
c'est ça.
l'été.
Oui, c'est ça.
On se retrouve, Seigneur, venant à l'automne, peut-être au ciel.
Ouais.
Oui.
C'est merveilleux.
Bonjour, Monsieur Ricard.
Bonjour,
Bonjour à
comment?
tous.
Le Raymond à l'autre.
J'ai voulu casser la glace, je me suis tombé.
Ben oui, t'as brisé glace.
Il y a deux brises-là, c'est merveilleux. Ben
Je veux te remercier, Gérald,
oui.
pour l'enseignement. Te souhaiter des bonnes vacances.
Ben, merci beaucoup, puis vous autres aussi.
Peut-être qu'on va se revoir à
Oui.
Tourelle.
Oui, c'est ça, oui.
Et moi aussi, Gérald, je tiens à te remercier beaucoup. On a parlé beaucoup de la foi ce soir, puis personnellement, pour le traitement que mon épouse a eu avec la foi qu'on a mis en Dieu et en Jésus-Christ, je pense que ça a fonctionné, étant en voie de guérison, sauf sa volonté, ça bien entendu.
Oui.
Mais au plaisir de se revoir
À l'automne.
à l'automne. Puis je te remercie beaucoup pour la saison, puis le soutien aussi de tous les frères et sœurs.
Oui.
J'ai pas fait beaucoup d'interventions parce que c'est pas mon.
Oui.
J'ai pas la facilité verbale que tu peux avoir. Mais par contre, la foi est là, puis on continue dans la prière et dans l'espérance.
Amen.
Je suis
Amen.
obligé de vous laisser présentement
Oui.
parce qu'il faut chercher les médicaments
Oui.
qui ont été fabriqués avec l'aide de Dieu qui a donné des talents aux humains pour fabriquer ces médicaments-là.
Salut, Gilles, aussi.
Allez,
Salut.
salut.
Bonnes vacances.
Bonne
Bonne
année
fin
à
pour
tous.
vous autres.
Peut-être on peut terminer par un mot de prière avant que tout le monde parte.
On était.
Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps qu'on a eu encore cet hiver, ce printemps, pour étudier ta parole. Merci Seigneur pour tous ceux qui se rassemblent chaque lundi soir avec un désir d'approfondir ta parole. Seigneur, qu'on puisse persévérer, qu'on puisse demeurer ferme parce que tu nous as appelés à une grande espérance. Puis on te remercie pour ça, Seigneur. On attend bientôt le retour de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui va revenir. Mais donne-nous, notre Dieu, de vivre aujourd'hui la partie que tu veux qu'on joue dans ton plan global. On est chacun pour sa part une partie de tout le plan que tu veux accomplir, Seigneur, dans le temps et pour l'éternité. Merci encore une fois. On te prie pour la femme de Serge, que tu continues de prendre soin d'elle. On te prie aussi pour notre sœur Ruth. On te remercie pour le message que tu nous as donné ce soir. Et Seigneur, qu'on puisse penser, continuer à penser pour demain. Et aussi pour tout l'été, qu'on ait une pensée pour notre sœur, que tu prennes soin d'elle, puis aussi pour la femme de Serge. Merci encore une fois et bénis chacun. Protège-nous cet été, Seigneur. Puis si c'était cet été qu'on serait réunis avec ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, on t'en rend grâce. Et sinon, Seigneur, bien, on veut se retrouver à l'automne pour continuer dans ta parole ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.